Bâtiment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio. Je suis ravie que vous soyez venus passer un nouveau bâtiment avec moi. Alors comme d'habitude, on parlera de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de protection de l'environnement. Parce que cette émission, comme vous le savez, c'est celle qui fait le pari que ce sont vos filières à vous qui permettront de nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Mais aujourd'hui particulièrement, on va parler d'international. Et sans transition, j'accueille mon invité du jour, Franco Vorca. Bonjour.
Bonjour Marjolaine.
Alors vous avez démarré votre carrière dans le secteur de la construction en 1990, ça ne rajeunit pas. Vous avez travaillé chez Vinci, et notamment dans les pays de l'Est, la République tchèque et la Hongrie, pour ne pas les citer. Et en 1997, vous avez rejoint la Caisse des dépôts et consignations, mais dans son antenne à Prague. Et puis après un passage chez EMGP et ICAD, pour qui vous avez surtout travaillé en Allemagne, vous voilà maintenant avec un sacré parcours international. Vous êtes présidente de REVA, une association européenne pour des bâtiments performants sur les volets chaleur, froid et ventilation, et de RIX France, la Royal Institution of Chartered Surveyors, la RIX, qui est une organisation professionnelle internationale indépendante qui propose des normes et qualifications pour l'immobilier. Et puis j'allais presque oublier que vous êtes également présidente de Building Smart France. Franck, pourquoi cette appétence pour le secteur bâtiment immobilier? Pourquoi cet appétit pour l'international? Et comment est-ce que vous faites pour trouver encore le temps pour venir dans mon émission?
Alors, en fait, tout ça, toutes ces activités sont parfaitement complémentaires et en fait, c'est pour ça que je les mène de front, c'est-à-dire qu'on est exactement. C'est pas des choses qui s'accumulent, c'est des choses qui se complètent et qui en fait deviennent un temps marginal en quelque sorte, puisque ce que je fais dans mes activités professionnelles est alimenté par ce que je peux faire par l'international. Alors pourquoi l'appétence par l'international? Bah tout bêtement parce que dans les années 90, nous étions en crise. Et à cette époque-là, il fallait
encore
trouver
en
du.
Crise, j'ai envie de dire.
Nous étions déjà en crise. Alors c'était une crise de l'immobilier assez forte. Moi, je commençais ma carrière et il s'est avéré que grâce à des rencontres, je me suis retrouvé à travailler en Europe centrale et en Tchécoslovaquie encore à l'époque, ce qui ne nous rajeunit pas non plus. Et donc j'ai appris mon métier formé par des professionnels aguerris qui étaient spécialistes de l'export chez CBC qui a ensuite été intégré à Vinci. Et effectivement, j'ai développé là avec ces professionnels-là une grande curiosité pour tous les aspects de nos métiers, ce que ça représente sur l'industrie, les produits, les composants, qu'est-ce que ça représente sur la maîtrise d'œuvre, sur l'ingénierie, les aspects performantiels déjà à l'époque, ce que je suis arrivé dans le métier à l'époque où nous tentions d'intégrer l'ISO 9000 et donc le processus qualité qui était issu de l'industrie. Et force est de constater qu'à l'époque, malheureusement, cette adaptation s'est faite par une vision plutôt bureaucratique où on remplissait des fiches qualité et pas toujours la qualité sur le chantier. Donc,
parce que vous avez vraiment une appétence terrain, en fait.
Voilà, moi je suis né.
Vous n'avez jamais quitté, quoi.
Ah, bah j'ai commencé ma carrière, les pieds dans les bottes, comme on dit. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, toutes mes activités, y compris celles que j'ai eues précédemment à la Caisse des dépôts et consignations, où je m'occupais de la stratégie sous la direction de Madame Odile Renaud-Bassot, qui était la directrice générale adjointe, qui est aujourd'hui la directrice de la Banque du Développement Européen. À la merde. Donc voilà, je passais des pieds dans les bottes à une vision stratégique par curiosité, par envie de savoir, d'apprendre. Et en vous parlant, je m'aperçois aussi grâce à des femmes, finalement, qui ont été mes directrices dirigeantes.
Éternel charmeur, ce prendre.
Pas du tout. Non, en fait, en vous écoutant, je me souviens de mes dirigeantes, que ce soit effectivement chez ICAD ou à la Caisse des dépôts, qui m'ont aidé et accompagné dans cette évolution professionnelle. Donc, je ne les oublie pas.
Plein de marraines, alors, autour de vous.
Exactement.
Voilà, et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, la France, l'international, on est comment? On est bon ou pas? Parce qu'on est tout le temps en train de pousser des cocoricos, là, les Français, mais est-ce qu'on est vraiment bon?
Évidemment. Et vous le savez bien, la députée, on est les champions du monde.
Champions du monde?
Champions du monde. On est quand même, je pense... Alors, des informations que j'ai, on doit être le deuxième pays après le Danemark, Donc, mais en tous les cas, le premier à mettre en place une réglementation aussi complète et aussi intransigeante sur les évolutions carbone de nos métiers, que ce soit en construction ou en exploitation, sur les seuils de performance énergétique qui vont au-delà de la directive, enfin des préconisations européennes de 2016 sur les bâtiments énergie proche de zéro. Donc on est champion du monde, oui, de très loin. Et on peut être très fier de nous. Depuis l'ERT 2012, nous sommes très très bons en termes de réglementation.
Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment.
Et c'est très malheureux.
En même temps, ça crée des frustrations chez les gens parce que les gens ils se disent, on est hyper fort en France, etc. Mais au fond, nous, qu'est-ce qu'on pèse dans ce jeu international ? Moi, j'aime bien rappeler, là, il y a la COP qui vient d'avoir lieu. On avait 38% des gaz à effet de serre qui viennent du secteur bâtiment dans le monde. 38%, c'est énorme, oui. Cette part du secteur dans le monde entier. Et du coup, si la France, avec son excellence à elle, peut essayer de pousser, tirer pour qu'effectivement on arrive à avoir des scores meilleurs, non seulement chez nous en France, parce que chez nous c'est quand même encore 24-28%, on est
alors,
dans ces eaux-là.
Oui, en fait vous touchez du doigt un problème majeur, qui est d'ailleurs le résultat de la COP. Un des enjeux de cette conférence des parties, c'est de se mettre d'accord sur la comptabilité, les périmètres de calcul, savoir bien faire la différence entre l'inventaire, l'empreinte. Inventaire empreinte, ça vous parle,
Alors, il faut que vous expliquiez pour les gens qui nous écoutent.
Bah oui, parce que le carbone ne se mesure pas. Ça, déjà, il faut être très clair là-dessus. On ne fait que des évaluations par convention et par analyse statistique ou par analyse de proxy, d'indicateurs de référence
c'est
sur
de
le
la
PIB.
Pure théorie,
ça.
Quoi, on peut
non,
pas...
c'est pas de la théorie, c'est de la science, mais de la science qui fait de l'analytique. Et donc, et d'ailleurs, il y a le programme des Nations Unies a sorti un programme qui s'appelle Science-Based Targets, qui est évidemment basé sur la science. Mais c'est une science qui est basée sur des théories physiques qui font que vous ne pouvez pas mesurer à chaque bâtiment que vous construisez les émissions de carbone. Ça, parce qu'il y a toute une chaîne d'acteurs et vous devez rentrer dans une comptabilité qui nécessite des standards et des normes internationales. D'ailleurs, une des grandes avancées de la COP, c'est la décision qui a été prise par les organismes qui s'occupent de ces standardisations comptables, donc l'IFRS, qui est une organisation internationale, de travailler sur des standards communs d'intégration des critères environnementaux et développement durable dans la comptabilité, puisque la plupart des pays européens et dans le monde demain sont soumis à une réglementation sur le reporting. Encore faut-il qu'on fasse le même périmètre de calcul, ouais, pour pouvoir comparer les choses qui sont comparables. Et ça, c'était un enjeu majeur, parce que je reviens donc du coup à l'inventaire. Beaucoup de gens confondent les périmètres de calcul. L'inventaire, c'est ce qui est émis sur le territoire national, donc c'est la consommation de l'industrie, des activités des citoyens sur le territoire national. L'empreinte, vous y rajoutez tous les produits importés, et vous n'êtes pas sans savoir que notre inventaire diminue, mais notre empreinte augmente. Absolument. Puisque
on aimerait faire l'inverse.
Plus, on aimerait faire l'inverse. D'ailleurs, c'est un des enjeux français.
C'est la question de la réindustrialisation. Comment est-ce qu'on fait pour réintroduire
je vais être caricatural volontairement. Moi, je prône le fait que la France augmente ses émissions de gaz à effet de serre.
Oui, mais je crois que vous êtes au final pas le seul.
Je le dis très fortement. Augmentons nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'inventaire. Si, dans le même temps, pour un kilogramme de CO2 que nous émettons chez nous, on fait disparaître 2 kg de CO2 d'import.
On a gagné.
Il y a un gain. Ouais. Et je pense que ça peut être un gain aussi, au-delà de l'aspect purement carbone, sur la résilience, sur les économies circulaires, sur
Est-ce
tous ces
le
enjeux-là.
Est-ce que le fait de penser global comme ça, ça va nous amener à repenser local ?
Alors, moi, j'en suis absolument convaincu, parce que je pense que la convergence est un enjeu majeur, et vous l'avez évoqué. À partir du moment où on réfléchit sur l'inventaire, l'empreinte, et qu'on a ces deux notions en tête, et qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'efficient, que quand j'investis un euro quelque part, j'ai pas que du carbone à économiser sur un périmètre national, mais regardez quel impact ça peut avoir au global. Et vous citiez les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. 38%, ça, c'est l'émission globale au niveau mondial.
Ouais.
Mais par qui est-elle tirée, cette émission-là ? Par la construction neuve,
Absolument.
Massive, en Asie et en Chine.
Absolument.
Vous savez que nos amis indiens construisent 10 villes de 10 millions d'habitants en 10 ans. Vous voyez ce que ça peut peser en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La Chine avec son développement aussi.
C'est pour ça que nos logiques à nous de construction bas carbone, elles ont du sens, y compris parce qu'après, on a quand même des leaders qui sont capables d'exporter nos modes de faire finalement dans d'autres endroits. Et est-ce que ça, c'est capable d'amener une transformation aussi dans ces endroits-là ? Mais par le concret, vous voyez ce que je dis ? Pas par des règles qui sont imposées d'en haut, mais par finalement le terrain qui va faire et qui va faire avec des règles qui sont celles sur lesquelles on se met d'accord en Europe.
J'en suis absolument convaincu et d'ailleurs je fais partie de ceux qui ont tenté d'apporter, notamment en Inde, à travers la Fédération Européenne des Ingénieurs Climaticiens que vous évoquiez tout à l'heure, depuis 10 ans, on travaille sur l'intégration de nos standards européens dans les normes indiennes, construction et chauffage, ventilation. Et effectivement, on peut amener ces éléments-là, mais ça implique quelque chose aujourd'hui où malheureusement, je disais, on est champion du monde de la réglementation, mais on n'arrive pas à embarquer, que ce soit en Europe et en France, l'ensemble de notre filière pour faire la démonstration aussi de ce que nous savons faire en termes de performance environnementale réelle pour aller démontrer l'excellence de nos filières.
Je le dis autrement, en fait, les Français sont très très bons pour développer des solutions et pour y contribuer, en tout cas, même en partenariat avec notamment à l'échelle européenne. Mais par contre, on n'est pas très investi dans un lobbying, en fait, à la française, quelque part, de savoir de manière un peu structurée pousser des solutions et participer dans des instances clés, c'est ça ?
Je sais pas si c'est du lobbying, mais en tous les cas, on est peu présent dans le soft power qui permet de
pousser. C'est une autre façon d'appeler du lobbying, oui, le soft power finalement.
Mais pourquoi ? Parce que en fait,
je ne le vois pas comme un mauvais terme, le lobbying.
On parlait des normes comptables internationales qui vont se développer. C'est une forme de soft power, puisque ce n'est pas une réglementation nationale ni supranationale. Ce sont des institutions qui sont à côté et qui décident ensemble de travailler sur les normes comptables. Où il faut être dans ces institutions-là, avoir des choses à dire. On parle de la comptabilité carbone, et vous parliez du poids carbone global. Et le poids carbone en France est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que notre industrie a des ressources énergétiques, avec notamment l'électricité qui est plus faible en carbone, et que les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment...
Le neuf, chez nous, il y en a moins qu'en Afrique. Et puis il y a moins de neuf,
voilà, exactement. Il y a beaucoup moins de neuf, donc le poids du neuf est totalement marginal. Et quand on a travaillé sur la réglementation environnementale 2020 qui va entrer en vigueur début d'année prochaine, on a bien vu que l'impact du neuf et de tout ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement marginal. Et c'est même un peu aberrant.
Mais c'est marginal en France, mais par contre, ça a vraiment du sens à l'extérieur. Et quelque part, faire la démonstration de comment ça fonctionne en France, c'est aussi une manière de tirer l'innovation partout ailleurs.
Alors voilà, c'est là où je vous touchez du doigt un sujet crucial pour moi. C'est-à-dire que si la RE 2020, c'est uniquement appliquer une taxe de 1 000 euros la tonne de carbone aux acquéreurs du neuf, ce ne sera pas une bonne idée. Ouais. Par contre, si c'est capitalisé sur une filière complète qui se met en mouvement pour aussi apporter des solutions à la rénovation, et pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, là, on aura gagné.
Et dans le monde, oui.
Mais vous voyez, c'est là où il faut qu'on...
C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu
international. Faut qu'on attrape notre deuxième étoile de champion du monde.
Ouais, c'est ça.
Parce que la première, c'est d'avoir effectivement cette réglementation extrêmement ambitieuse.
Ouais.
Mais la seconde, c'est de transformer l'essai pour emmener toute une filière financière, investisseur, industriel, constructeur qui nous permettra d'être en capacité de démontrer qu'on peut faire du neuf et de la rénovation en Europe. Parce que l'enjeu de l'Europe, c'est pas le neuf, c'est la rénovation.
Ouais, bien sûr.
Là où, au contraire, dans les pays en voie de développement, je devrais pas dire ça, mais en Inde et en Asie et en Afrique, l'enjeu, c'est de construire neuf, tout de suite bas carbone.
Et
comment on les accompagne, comment on les aide, comment, pas les aider parce que ils ont pas besoin d'aide, mais comment on coopère. Voilà, comment on coopère avec eux pour ça. Et mon expérience en Inde montre qu'il y a une appétence de savoir comment on travaille, quels sont les éléments qu'on peut apporter.
Et il y a des réciprocités à prendre, parce que l'Inde, c'est champion de la frugalité. Aujourd'hui, nous, en France, on essaye de... ils sont champions du monde de la frugalité.
De la frugalité, oui. Bon, enfin, avec quand même des enjeux très forts. Et vous savez que la France a été un des pays fondateurs de l'Alliance solaire internationale qui est basée en Inde.
Oui, un ami d'ailleurs qui en est dans les hautes sphères.
Je pense que c'est... Typiquement, on parlait d'enjeux globaux. Là, il y en a un absolument majeur.
Eh bien, une petite question complémentaire, parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est un gros mot que des gens utilisent, mais que pas beaucoup de gens comprennent. Est-ce que vous pouvez, Franck, nous parler de taxonomie ?
Alors, la taxonomie, c'est typiquement le soft power dont je parlais tout à l'heure. C'est la capacité des acteurs de se mettre ensemble, à définir un standard et une définition partagée. Parce que taxonomie vient de Buffon et des travaux sur l'identification des espèces, et d'avoir un langage commun pour définir les choses. Et effectivement, cet enjeu majeur aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est un investissement respectueux de l'environnement, basé sur six critères, dont deux que sont l'énergie et le carbone, mais aussi la gestion de l'eau et aussi...
Donc ça va être la
principe...
langue commune un peu de du développement durable. On se met d'accord là-dessus, et ensuite ça veut dire que quand des investisseurs voudront parler cette langue de développement durable, ils utiliseront ces mots-là.
Exactement.
Je le dis en forme littéraire.
Alors, plus que les mots, il y aura une définition du mot.
Ouais, très concret.
C'est-à-dire que quand vous direz c'est telle espèce, tout le monde saura que c'est bien la même chose dont on parle. Et que quand
aujourd'hui,
on
dira
j'investis dans un immeuble dans un immeuble vert avec les critères dont on parle là, on parlera a priori la même langue. Alors oui et non, parce qu'aujourd'hui la taxonomie est en danger, parce que c'est beaucoup devenu à des enjeux politiques, et on s'éloigne, je pense, de ce qui était la base scientifique de départ, parce qu'il y a des enjeux de politique
pouvoir.
Et de pouvoir entre les États aujourd'hui qui vient perturber le jeu. Mais je reste quand même très confiant, parce qu'on a besoin d'un...
Et puis
d'un...
on a des vigilants qui sont là depuis longtemps.
Au-delà
et
de la vigilance,
regarder...
je crois beaucoup qu'on a besoin de savoir d'avoir cette transparence et ces définitions communes,
ouais, je crois qu'on
des
a
choses dont
besoin
on parle.
De ça, sinon... ça, c'était une des grandes dénonciations finalement de la COP. Attention au greenwashing, attention à la manière dont on tord les idées précises.
Le meilleur moyen de faire du greenwashing, c'est d'employer un mot dont personne ne partage la définition.
Mais c'est ça, c'est une belle manière effectivement de le dire. Franck, on arrive pratiquement au terme de l'émission. C'est passionnant, il faudrait que vous reveniez trois fois pour qu'on en fasse le tour. Mais on finit toujours avec un mot pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes là ? Est-ce que, voilà, déjà vous leur avez donné un sacré appétit à travers le secteur du bâtiment, ils vont voyager dans le monde de toute évidence.
Absolument.
Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire d'autre ?
Écoutez, moi, je pense que c'est un secteur d'activité, l'immobilier, qui va faire sa mue de manière un peu plus tardive que les autres industries. Et venez dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur absolument passionnant. Et si vous voulez faire quelque chose pour le climat, vous l'avez dit, Marjolaine, c'est un secteur qui pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, qui va peser très lourd dans la manière de protéger les concitoyens en leur fournissant un toit, mais aussi un lieu pour vivre, qui va peser très lourd demain sur les impacts que ça peut avoir en termes d'usage de l'immobilier, d'impact sur les déplacements, sur la mobilité. Donc c'est vraiment un secteur crucial et un secteur clé. Et puis surtout, c'est un secteur qui a besoin, je le disais, de faire sa mue, et qui a besoin de convergence entre des outils digitaux qui sont en train de se développer, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toutes ces activités, et des objectifs de moyens pour comprendre la performance des ouvrages et comprendre les différentes échelles à laquelle on parle, entre un composant qui est mis dans un bâtiment, puis l'impact global d'une ville dans le métabolisme urbain. Et de l'un à l'autre, vous avez un jeu des échelles comme ça qui est absolument fascinant. Donc si vous aimez la complexité, si vous êtes curieux, si vous voulez travailler sur ces enjeux-là, le métier de l'immobilier au sens global du terme est fait pour vous. Et puis en plus, je pense qu'il y a une place particulière pour toutes les jeunes femmes que je vois qui sont diplômées en ingénierie et que je ne retrouve plus. Et c'est un constat que nous faisions avec d'autres syndicats d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve plus là où elles devraient être ensuite en termes de pourcentage dans nos métiers. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis ailleurs faire des choses plus intéressantes sans doute, mais revenez, c'est un endroit merveilleux et de développement absolument extraordinaire. Et dans les 10 ans qui viennent, le métier de l'immobilier va muter à très grande vitesse, et il faut que vous en soyez.
Voilà. Il y a de très belles places à prendre. Merci beaucoup, Franck. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi pour ce bâti moment. À bientôt.
À bientôt. Merci à tous.
Un bâti moment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.